Vous écoutez, on lit pour vous.
Entre le robot à 28 000 et la banque alimentaire. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 10 novembre 2025, dans la presse. Les plus riches, semble-t-il, n'auront plus besoin de se lever pour aller chercher le pot de moutarde dans le frigo, ni de plier leurs vêtements. Un robot à 28 000 aux allures d'humain fera bientôt ses tâches pour eux. Pendant ce temps, les moins nantis continueront d'être toujours plus nombreux à fréquenter les banques alimentaires. Il n'est plus nécessaire de décortiquer les données sur la richesse des ménages pour constater la croissance des inégalités. L'accès à la technologie l'illustre à merveille. Le néo-robot, qu'on peut maintenant précommander, promet d'être l'assistant domestique personnel le plus fiable, discret et travaillant jamais vu. Ce n'est plus de la science-fiction. Il lui reste beaucoup à apprendre avant d'être autonome, mais à la vitesse fulgurante où progresse l'IA, ça ne prendra pas 5 ans pour voir surgir des avancées spectaculaires. Nettoyer des toilettes ne devrait pas être trop compliqué. Les voitures haut de gamme roulent déjà sans conducteur. Combien coûte Neo? On peut l'acheter pour 20 000 US, 28 000 canadiens, ou le louer pour 700 canadiens par mois. Ce n'est pas donné. Mais c'est le prix à payer pour obtenir le privilège de profiter de son temps à la maison, au lieu de rester chez soi, juste pour faire encore du travail. On fait valoir ses créateurs pour en mousser les ventes. Les entreprises qui fabriquent ces majordomes en plastique, remplis de processeurs, croient manifestement qu'il y a un marché assez grand pour justifier de tels investissements en recherche et développement. Elles n'ont pas tort. Le nombre de milliardaires ne cesse de grimper. La barre psychologique des 1000 milliardaires vient d'être franchie en Europe, selon le recensement annuel des milliardaires d'Altrata dévoilé dernièrement. Dans le monde, leur nombre a augmenté de 5,6% pour atteindre 3508 individus, soit la plus forte progression depuis 2020. Et le pactole moyen de chacun a bondi en moyenne de 10,3%. Le Canada n'échappe pas au phénomène. L'écart entre les riches et les pauvres s'aggrave ici aussi depuis la pandémie et ses effets inflationnistes. Entre 2020 et 2024, les moins nantis ont subi une baisse d'environ 2 % de leur revenu annuel disponible, soit 568 $. Pendant ce temps, les 20 % les plus riches ont vu leur pouvoir d'achat exploser de 51 %, avec environ 70 000 $ de plus à dépenser. Un écart gigantesque. Il est absolument crève-cœur de constater que seul le groupe des plus pauvres a vu sa situation financière se détériorer. Comme si ce n'était pas déjà assez, le logement, plus de 31 % et l'alimentation, plus de 28 % sont les deux catégories ayant affiché les plus fortes hausses de prix entre août 2020 et août 2025. Et ce sont précisément les postes budgétaires qui occupent la plus grande part des dépenses des familles à faible revenu, rappelle l'Observatoire québécois des inégalités dans un récent rapport. Pour les 20 % les plus pauvres, le loyer et la facture d'épicerie grugent la moitié du revenu disponible. C'est énorme, pour ne pas dire ingérable. Ceux qui se demandent encore pourquoi autant de travailleurs ont besoin des banques alimentaires pour se nourrir ont maintenant la réponse. On parle ici de revenus, mais la question des inégalités de patrimoine est tout aussi préoccupante, particulièrement dans le contexte où Ottawa a reculé sur le gain en capital. L'augmentation du taux d'inclusion aurait permis d'apaiser légèrement les inéquités. Et ce n'est pas le budget présenté cette semaine qui va améliorer quoi que ce soit dans les perceptions sur le coût de la vie. Mis à part le crédit d'impôt pour les préposés aux bénéficiaires, aucune nouvelle mesure ne va alléger le quotidien des ménages. Certes, les données sont claires. Depuis 4 ans, le revenu disponible moyen des ménages québécois a progressé de 19,3 %, ce qui est supérieur à l'inflation, plus de 18,4 %. Le problème, c'est que cette moyenne cache de grandes disparités, puisque les augmentations se sont concentrées chez les plus nantis. Un chauffeur de taxi m'a parlé cette semaine de ses longues heures de travail, de ses enfants qu'il voit peu, d'Uber qui a amputé son revenu. La classe moyenne, c'est quelque chose qui va disparaître, a-t-il prédit. L'économiste Geoffroy Boucher de l'Observatoire n'est pas aussi pessimiste. En réalité, quand on regarde les données sur 50 ans, le nombre de Québécois dans la classe moyenne augmente, mais uniquement grâce à la fiscalité. Allocations familiales, crédit d'impôt, pensions publiques, pas au salaire. Le pouvoir d'achat des ménages de la classe moyenne croît, lui aussi. Quand on essaie de réconcilier les sentiments et les chiffres, on constate que le facteur clé, c'est qu'on consomme davantage, alors qu'il faut travailler plus et s'endetter plus. Après les VUS luxueux, les iPhones, les spas et les voyages dans le Sud, peut-être deviendra-t-il banal de s'acheter un robot qui lave la vaisselle et range tous les jouets qui traînent. Mais pour l'instant, on aurait besoin de Néo pour donner un coup de main dans les banques alimentaires. C'était « Entre le robot à 28 000 $ et la banque alimentaire », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 10 novembre 2025 dans la presse.
Les besoins en soutien aux aînés vont exploser, prévient une association. Un texte de Catherine Desautels, publié le 25 novembre 2025 dans La Presse. Les ressources actuelles ne sont pas assez nombreuses pour répondre aux besoins des aînés. D'ici 2035, 111 000 personnes âgées de plus risquent de ne pas avoir les services à domicile ou un milieu de vie adapté pour elles. L'Alliance québécoise des milieux de vie pour aînés, l'AQMVA, sonne l'alarme et appelle les décideurs à agir avant de frapper un mur. Il s'agit d'un net déséquilibre entre la hausse de la demande et l'offre du réseau public, dénonce l'AQMVA, qui représente 86 % de l'hébergement aux aînés au Québec, autant pour les soins à domicile, en CHSLD, en résidence privée pour aînés, les RPA, ou en ressources intermédiaires. L'Association québécoise des milieux de vie pour aînés a mandaté la firme Aviséo Conseil pour réaliser une prévision sur 10 ans de la demande des besoins en matière de soutien et d'assistance pour les aînés. Le rapport, publié mardi, dresse un portrait alarmant. Le nombre d'aînés ayant un besoin de soutien à l'autonomie passera de 289 000 en 2025 à 400 000 en 2035, soit une hausse de 38 %. Le soutien à l'autonomie comprend, par exemple, l'aide à sortir du lit, la toilette partielle ou complète, l'encadrement de la prise de médicaments, etc. Ce soutien peut s'effectuer à domicile, mais aussi dans d'autres milieux, comme les résidences. Selon les prévisions, dans 10 ans, 70 % de la demande concernera le soutien à domicile et la demande en CHSLD bondira de plus de 50 %. D'ici 2040, 40 000 nouvelles places en CHSLD seront nécessaires pour répondre aux besoins. Des régions plus touchées que d'autres. Plus de la moitié de la hausse en soutien à domicile se concentrerait en Montérégie, à Montréal, dans les Laurentides et la Capitale-Nationale. À elle seule, ces quatre régions représentent près de 50 % de la croissance totale lorsqu'on combine leur poids démographique et le vieillissement de leur population. Carl Veilleux, président du conseil d'administration de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, se demande quelle est la vision du gouvernement pour les prochaines années au Québec. Il met de l'avant des statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Depuis 2018, 700 résidences pour personnes âgées ont fermé leurs portes, guillemets, essentiellement pour des raisons financières, selon M. Veilleux. De plus, depuis 2020, 72 % des appels d'offres en ressources intermédiaires n'ont pas trouvé preneur, citation, parce que les conditions de financement ne sont pas adéquates aux réalités du marché. On vieillit tous, mais il y a certaines régions qui vont être sous une plus grande pression que d'autres. Ellipse, en termes de CHSLD, de ressources intermédiaires et de résidences privées pour aînés, également, il faut que ça cesse de fermer. Il faut continuer de développer et maintenir les services, ça, c'est incontournable. Fin de citation, soulève M. Veilleux. Déjà, 25 000 aînés n'ont pas les soins et services dont ils ont besoin. Plus précisément, 3 500 aînés sont en attente d'une place en CHSLD et 17 800 aînés attendent un premier service en soins à domicile selon les données du tableau de bord du ministère de la Santé. À cela s'ajoutent les chiffres de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, selon lesquels 5 500 personnes sont en attente d'une place en ressources intermédiaires. Ces personnes errent dans le réseau, soit qu'elles se retrouvent hospitalisées en attendant une place en CHSLD qui ne se concrétisera peut-être jamais pour elle, soit que des proches aidants s'épuisent à s'occuper d'elle. Citation. Il y a des cas qui sont hébergés en ressources intermédiaires qui devraient normalement être localisés vers des CHSLD, mais faute de place, on les maintient en ressources intermédiaires, expose M. Veilleux. Les équipes sur place ne sont pas toujours équipées pour bien encadrer ces clientèles plus lourdes. Donc, ça met une pression sur l'équipe. Ellipse, ça a aussi un effet sur tous les autres résidents qui cohabitent avec cette personne, parce que peut-être la personne se désorganise. Elle a de gros problèmes comportementaux, donc elle n'est plus à sa place et elle désorganise le milieu de vie. Fin de citation. Ce genre de cas embourbe aussi les services des premiers répondants qui doivent intervenir dans des milieux de soins, guillemets, alors qu'ils ne devraient pas, commente M. Veilleux. La sonnette sonne plus fort que jamais. À l'heure actuelle, seules 127 nouvelles places en maison des aînés seront disponibles dans les prochaines années, selon le tableau de bord du ministère. Une, citation, hausse marginale en comparaison à la hausse prévue des besoins, exprime l'Association québécoise des milieux de vie des aînés. Le rapport indique que les besoins et les coûts pour le soutien à l'autonomie des personnes âgées quadrupleront, passant de 6,2 milliards en 2020 à 25,6 milliards en 2050. Citation, cette pression financière majeure sur l'État québécois exige une réforme urgente privilégiant les soins à domicile moins coûteux, peut-on lire dans le rapport. Citation, on vient réaffirmer un constat qu'on savait déjà. Je pense que la sonnette d'alarme pour nous, elle sonne plus fort que jamais. On est définitivement devant une crise des services de soutien et d'assistance aux aînés, avec 25 000 personnes aujourd'hui qui n'ont pas leur service. Je pense qu'on est déjà dedans. Puis la crise ne va que s'accentuer au cours des prochaines années, prévient M. Veilleux, fin de citation. Autre citation, même dans le scénario optimiste, on ne va pas être en mesure de répondre aux besoins de nos aînés. Donc, il est absolument impératif qu'on se mobilise rapidement pour travailler différemment, tout le monde ensemble, dans le but de traverser cette crise, dit-il, fin de citation. M. Veilleux demande à la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Sonia Bélanger, de s'asseoir avec l'Association québécoise des milieux de vie pour aînés pour appliquer des solutions. La couverture en santé de la presse canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La presse canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique. C'était « Les besoins en soutien aux aînés vont exploser », prévient une association. Un texte de Catherine Desautels, publié le 25 novembre 2025, dans la presse.
Le végétarisme en perte de vitesse, un texte d'Annabelle Caillou, paru le 9 octobre 2025 dans Le Devoir. François Breton-Champigny est devenu végétarien en 2016 à 23 ans. D'abord par crainte de ne pas assez cuire sa viande, il est daltonien, puis surtout par souci environnemental et éthique. C'était « the talk of the town », se souvient-il. On parlait beaucoup des conséquences de la consommation de viande sur l'environnement et du bien-être animal. J'étais optimiste, je voulais faire partie de ce projet social-là. À l'époque, le végétarisme était en pleine ascension au Québec. Des restaurants végétariens ouvraient, les autres ajoutaient des options végétales à leur menu, les produits sans viande envahissaient les tablettes et les recettes végées se multipliaient en ligne. Je ne pensais pas manger de viande dans ma vie, rien que l'idée m'écœurait, confie François qui n'a jamais recroqué dans un morceau de viande jusqu'à l'automne 2023. J'étais au restaurant, j'ai reçu un sandwich au poulet par erreur. Sans le savoir, j'ai pris une bouchée, je me suis dit « oi oi, ça goûte vraiment bon, ça a été la bouchée fatale ». Il a compris que le goût de la viande lui manquait et qu'être végétarien compliquait son quotidien. À ce moment de ma vie, avec mon travail, je n'avais plus le temps de cuisiner, je n'avais pas toujours d'options végées intéressantes. explique celui qui mange désormais de la protéine animale quasi quotidiennement. Son optimisme pour l'avenir de la planète s'est aussi effrité. Être végé, c'est une goutte d'eau dans l'océan face aux multinationales qui polluent et détruisent la planète pour gagner des milliards. Je veux m'enlever cette pression. Catherine Bélanger, végétarienne de 2018 à 2022, abonde en ce sens. Composter, recycler, me déplacer à vélo, ça fait du sens au quotidien. Mais rester végé, c'était devenu une contrainte, raconte cette grande sportive qui était lassée de calculer le nombre de protéines dans son assiette et d'être la personne qui complique les repas de famille ou entre amis. Un marché en recul. L'éco-fatigue de François Breton-Champigny et de Catherine Bélanger illustre une tendance bien plus large. Entre l'automne 2024 et le printemps 2025, la proportion de Canadiens se disant végétariens est passée de 7,7% à 5,9% et celle des végétaliens est passée de 2,6% à 3%, selon une étude du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie, citée dans la revue Retail Insider. Cet affaiblissement du mouvement végétarien se fait par ailleurs de plus en plus ressentir dans l'industrie. Les géants américains Beyond Meat et Impossible Foods, dont les hamburgers à base de plantes sont en épicerie et dans plusieurs chaînes de restaurants rapides, ont vu leurs ventes diminuer ces deux dernières années. L'action de Beyond Meat, qui valait environ 235 $ US à son pic en 2019, valait à peine plus de 2 $ US début octobre, soit une chute de 99%. En septembre, Yves Veggie Cuisine, pionnier des substituts de viande au Canada, a annoncé la fermeture de ses portes après 40 ans, évoquant un déclin depuis plusieurs années des produits sans viande. Son concurrent montréalais Gusta subit aussi cet essoufflement. Les viandes végétales connaissent une baisse des ventes jusqu'à 5% par an depuis quelques années. Gusta n'y échappe pas, souligne son président Martin Valiquette. Il évoque une saturation du marché avec l'arrivée de nombreux nouveaux acteurs. Les consommateurs critiquent aussi le prix plus élevé de cette gamme de produits, dit-il. Guerre à l'ultra transformé. Confirmant voir beaucoup d'éco-fatigue chez les végétariens, l'autrice et militante végane Élise Desaunier croit que le mouvement a aussi souffert de cette nouvelle obsession pour une alimentation riche en protéines portée par nombre d'influenceurs. Car quand on parle de protéines, on pense immédiatement à la viande, aux poissons et aux œufs. Une diète qui inquiète d'ailleurs les nutritionnistes qui soulignent que les Canadiens mangent déjà assez de protéines. Mais c'est surtout la méfiance envers les aliments ultra-transformés qui a freiné l'élan végétarien, ajoute Madame Desaunier. L'industrie de la viande a poussé l'idée que les aliments végétaliens, comme les fausses viandes, étaient artificiels, trop transformés et donc mauvais pour la santé. Ça crée des inquiétudes chez les végés, avance-t-elle. Même écho du côté de la docteure en nutrition Isabelle Huot. Quand on voit la liste d'ingrédients qui s'éternisent ainsi que tout le gras et le sel dans un Beyond Meat, c'est mieux finalement d'acheter un bœuf extra maigre, lance-t-elle, rappelant que des études démontrent que les aliments ultra-transformés sont reliés à plusieurs maladies chroniques en raison de la haute teneur en sel, en sucre et en additifs. Beyond Meat semble avoir compris le message. L'entreprise a récemment supprimé le mot « meat » de son nom et a dévoilé un nouveau produit plus simple et seulement 4 ingrédients. Gusta, de son côté, veut profiter de la disparition d'Yves Veggie Cuisine pour élargir sa gamme. Imitation de jambon, de salami, de viande hachée, de burger, tout en simplifiant aussi ses recettes. On veut revenir à la base, réduire la liste d'ingrédients. On ne peut pas se battre contre la simplicité du tofu et des lentilles pures, mais il faut bien offrir d'autres options, indique M. Valiquette. Le tofu, produit simple à base de fèves de soja, d'eau et de chlorure de magnésium, tire mieux son épingle du jeu. Les entreprises québécoises Unisoya et Tofu Tofu ont confirmé au Devoir enregistrer une croissance stable malgré un léger ralentissement. Moins de viande dans l'assiette. Le végétarisme est là pour rester, affirme Isabelle Huot. Regardez le nombre d'options végétales dans les restaurants et les épiceries d'aujourd'hui. Et si les végétariens sont moins nombreux, le nombre de Canadiens réduisant leur consommation de viande a augmenté. L'étude de l'Université Dalhousie montre que les flexitariens, qui mangent majoritairement des protéines végétales, mais pas exclusivement, sont passés de 4,6% à 5,5% entre l'automne 2024 et le printemps 2025. Et selon un sondage léger commandé par le Journal de Montréal en juin, près de 40% des Québécois ont diminué leur consommation de viande depuis 5 ans. C'est toutefois le prix considéré comme élevé de ce type de protéines qui les motive principalement, alors que la raison environnementale trônait en tête de liste 5 ans auparavant. On est moins dans des courants puristes, mais plus dans la flexibilité, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Au final, les gens réduisent leur consommation de viande, analyse Madame Huot. C'était « Le végétarisme en perte de vitesse », un texte d'Annabelle Cailloux, paru le 9 octobre 2025 dans Le Devoir.
Comment gérer efficacement ses abonnements? Un texte de Léo Mercier, paru le 30 octobre 2025 dans Le Devoir. Abonnement à des services de diffusion vidéo, à une application d'autopartage, à un centre d'entraînement ou bien à une livraison de café à domicile. Le consommateur moderne jongle avec une multitude de frais mensuels, hebdomadaires ou annuels afin d'avoir accès à divers services et produits du bout des doigts. Comment prendre le dessus sur ces factures qui ne semblent que s'empiler discrètement? Le Devoir a posé la question à des experts en la matière. L'idée, c'est de garder le contrôle et, de temps en temps, de faire un bilan, résume Sylvain Sénécal, professeur titulaire au département de marketing de HEC Montréal. L'expert en commerce électronique conseille ainsi de dresser une liste de ses abonnements et, une ou deux fois par année, de prendre un pas de recul pour regarder lesquels on utilise vraiment. On peut facilement être abonné à 5 services de diffusion de contenu en ligne. Il y en a qu'on utilise seulement tous les 3 mois, illustre-t-il. Comme faire le tri peut s'avérer compliqué, M. Sénécal propose 3 catégories. Des abonnements essentiels qui sont utilisés régulièrement, des services optionnels qui peuvent être gardés si on a le budget, mais qu'on n'utilise pas régulièrement, et les inutiles qui ne sont pas ou très peu utilisés, mais qui sont facturés tous les mois. Selon Sylvain Sénécal, les différents services de diffusion sont un exemple flagrant d'un abonnement souvent optionnel qui demande une certaine organisation. On peut, par exemple, vouloir écouter une série sur Netflix, puis une autre sur TouTV, et aimer l'offre de films de Disney+. Au lieu de rester abonné aux 3 en même temps, M. Sénécal propose une alternance entre les abonnements pour profiter d'un catalogue différent chaque mois, sans dédoubler la facture pour 2 services autrement semblables. Pour Renato Hubner-Barcelos, professeur au département de marketing de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, une telle analyse de ses besoins ne peut être réalisée chaque mois, car ce n'est pas un horizon assez long pour vraiment évaluer la valeur d'un service. Ce dernier recommande donc de se prêter à l'exercice chaque année, ce qui permet une vision plus large qui prend en compte plusieurs facteurs, comme l'utilisation saisonnière. La seule exception à ce conseil, les essais gratuits. Il faut être systématique, affirme M. Hubner-Barcelos, qui conseille de noter la date de renouvellement sur son calendrier. Pour ceux qui ont un budget plus limité, on peut essayer de s'abonner en prévoyant déjà la date de renouvellement pour que ça tombe à l'intérieur d'une période plus facile financièrement. Il faut être très soucieux. Miser sur l'inertie du consommateur. Prendre ce pas de recul est une étape particulièrement essentielle, car les compagnies qui offrent des abonnements misent sur l'inertie du consommateur afin de maximiser leurs profits, explique pour sa part Marc-Antoine Vachon, également professeur au département de marketing de l'UQAM. C'est comme le principe physique d'un corps qui se déplace. Il doit y avoir une force importante pour le freiner ou le faire changer de direction, illustre M. Vachon. Alors cette inertie qu'on amène dans le comportement se traduit par un oubli de l'abonnement. On s'en soucie peu et ça devient acceptable. C'est notamment le cas parce que le coût individuel des abonnements n'est souvent pas très élevé, poursuit-il. C'est lorsqu'il est combiné à tous les autres services que la facture grimpe réellement et peut avoir un effet sur le budget. Vient s'ajouter à cette inertie la décision des entreprises de compliquer l'effort du client pour se désabonner. Un geste qui peut être particulièrement difficile ou contraignant, observe Marc-Antoine Vachon. On demande souvent un effort plus important que, dans le monde réel, l'action de changer de magasin en allant de l'autre côté de la rue. Une technique qui vient s'ajouter à des manœuvres qui, lors de tentatives de désabonnement, viennent créer de la dissonance chez le consommateur, explique Sylvain Sénécal. En offrant l'abonnement au rabais ou en rappelant ce qu'offre le service et qui sera perdu en se désabonnant, les entreprises tentent ainsi d'éviter de perdre trop d'abonnés, décortique-t-il. Car c'est réellement ici le nerf de la guerre pour ces compagnies qui veulent avant tout créer des abonnements, puis les conserver le plus longtemps possible. La stratégie compte sur un niveau d'utilisation variable où certains vont utiliser tout ce qui est offert alors que d'autres presque pas, renchérit Renato Hubner, Barcelos. Ce serait impossible de rentrer tous les gens qui sont abonnés dans un centre d'entraînement, cite-t-il en exemple. Augmentation. Une fois abonné, le consommateur peut d'ailleurs devenir sujet à des augmentations, rappelle Marc-Antoine Vachon. On n'est pas ici dans un phénomène de négociation, mais d'information. On vous informe que, désormais, les prix ont changé. Puis, c'est à prendre ou à laisser, mais si vous voulez partir, vous avez des efforts à fournir. Et ça, ça peut en décourager plusieurs. C'est pour cette raison qu'une stratégie souvent observée est une augmentation du prix mineure mais constante, où, chaque année ou chaque trimestre, la facture augmente, soutient le professeur de marketing. Sur un abonnement de $14,99, $1,50 de plus, c'est quand même 10% d'augmentation. Alors si le taux d'inflation est de 2%, ça le bat 5 fois, illustre-t-il, en soulignant que de nombreux consommateurs ne prennent pas le temps de faire ce calcul, ne voyant que la petite augmentation, qui est souvent individuellement moins chère qu'un café. On joue avec cette paresse-là, qui est normale chez le consommateur. On a une énergie qu'on se doit de gérer en tant qu'être humain, et des fois, on n'a pas cette disponibilité cognitive pour faire le calcul, résume Suvachon. Malgré tout, pour ce dernier, la réception d'un avis d'augmentation est un bon moment pour se questionner sur l'utilité d'un abonnement. Reste qu'avec 15 abonnements, ça fait 15 moments de réflexion. C'est beaucoup, estime M. Vachon. Dans cette optique, garder des traces de ces abonnements ainsi que de leur utilisation reste la solution idéale, bien que les abonnements soient conçus pour être en quelque sorte oubliés, souligne le professeur. C'était « Comment gérer efficacement ses abonnements ?» un texte de Léo Mercier paru le 30 octobre 2025 dans Le Devoir.